Merci beaucoup. Donc effectivement, le travail de thèse que je débute porte sur l'organisation du pouvoir dans la société juive et dans les sources de la loi orale, donc la Mishnah, le Talmud, les commentateurs à l'Afrique. À l'origine de ce projet, c'est une question brûlante que j'avais sur comment les sages de la loi orale conçoivent la politique juive, conçoivent la société juive, la constitution de la société juive, quelle vision ils en ont et comment s'articulent les différentes figures, les différents pouvoirs. Donc on a tout de suite en tête quatre grandes figures qui émergent. Il y a le roi, le Kohen Gadol, le prophète, le ou les juges, donc le Sanhedrin, le tribunal. Comment ça s'articule, sachant que il n'y a rien de vraiment très explicite, à la fois dans les sources de scripture, donc de la Bible, et à la fois dans les sources orales. C'est ambigu. Là, j'avais envie d'aborder la question du roi, enfin la figure du roi, et ses ambiguïtés, pour voir dans quelle mesure, en fait, la Gemara, la tradition orale, pouvait élaborer une doctrine sur ce que c'était que la souveraineté. Donc, dans les sources bibliques, ce qui apparaît, c'est que le roi est un personnage ambigu dont le rôle n'est pas défini. On a en tête une source qui est assez connue, qui est dans le Deutéronome 17-14. Lorsque tu entreras dans le pays qu'Hachem, ton Dieu, te donne, pour le posséder et l'habiter, et que tu diras « J'établirai sur moi un roi comme les peuples qui nous entourent », tu établiras sur toi un roi choisi par ton Dieu parmi tes frères. Cet énoncé est ambigu parce qu'il y a deux parties. Il y a une première partie où on rapporte une volonté du peuple d'établir un roi en terre d'Israël. Et une deuxième partie où on voit donc, ce qui semble être la réponse de Dieu qui dit « À ce moment-là, tu établiras un roi ». Mais impossible de savoir si c'est une formulation qui relève d'une injonction, donc d'un commandement, ou si c'est une concession qui est faite au peuple. Cette ambiguïté-là, elle est renforcée dans le livre du prophète Samuel, donc Samuel 8, 4, 5, où on dit « donc ce fut un mal aux yeux de Samuel quand ils dirent « Donnez-nous un roi pour nous juger ». Donc là, tout de suite, on sent qu'il y a une ambiguïté sur le rôle du roi, il y a une ambiguïté sur est-ce que c'est un commandement, est-ce que c'est une concession, sachant qu'il semblerait que ce ne soit pas forcément une bonne chose que d'établir un roi. Et donc là-dessus, une fois qu'on a posé ce contexte, on regarde les sources rabbiniques. Sauf que les sources rabbiniques ne fournissent pas de définition au sens aristotélicien, donc genre prochain, différent spécifique. Mais des énoncés, des listes de prérogatives, de droits et de devoirs. Et dans le traité Sanhedrin, page 19a, on voit le personnage du roi qui est abordé de façon elliptique. Mais pour notre étude, ce qui est intéressant, c'est que justement ce caractère elliptique, plutôt que de se dire que ça nous empêche d'arriver à une compréhension du roi, elle va nous aider à donner un corps au roi et d'en faire un personnage conceptuel, donc au sens de Deleuze, comme si s'appuyer sur ce caractère elliptique pour une méthodologie et façonner les contours de ce personnage mystérieux. Donc dans Sanhedrin 19a, la Mishnah dresse cette liste de rôles et responsabilités. Et premier rôle, première chose que dit la Mishnah, c'est l'impossibilité pour le roi de porter un jugement. Ameler, lodan, velodaninoto, le roi ne juge pas et n'est pas jugé. C'est une proposition qui est très étonnante. Très étonnante, surtout pour nous, parce que l'imaginaire occidental est profondément marqué par la figure du roi Salomon, qui est le roi juge, son célèbre jugement, parangon de la justice. Et de plus, la figure du souverain dans les sources médiévales, chez Dante, par exemple, dans le Démonarchia, est associée à celle du juge souverain, donc le juge souverain auquel nul n'est opposable. On retrouve cette configuration aussi chez Bossuet, qui dit donc que lorsque le prince a jugé, aucun autre jugement ne peut être rendu. Donc là, ce qui étonne, c'est que le roi ne peut pas juger. Et ce qu'on va voir, c'est que dans les sources rabbiniques et le contexte de cette Mishnah 19a, le roi apparaît comme celui qui abuse du pouvoir qui lui revient. Non seulement il ne peut pas juger, mais en plus de ça, il abuse de son pouvoir. Donc, comme précisé donc, dans Persévérance du fait juif, dans la tradition rabbinique, Meller, donc le mot Meller qui désigne le roi, n'est pas une notion fixe qui est repérée par les études bibliques, mais c'est un terme polysémique et flottant, roi contient dans cette tradition la somme institutionnalisée de ses valeurs contextuelles. Donc, dans le contexte de la Megillah d'Esther, le concept Meller se réfère à la fonction militaire, la fonction défensive que remplissent les rois étrangers auprès de leur peuple, titre qui est partagé entre Dieu et le Meller au regard de la puissance déployée dans la guerre. Il nous faut donc à notre tour, dans le contexte de la Mishnah Sanhedrin 19a, savoir à quelle fonction la notion de roi se réfère. Et le Talmud donne une explication sur pourquoi le roi ne peut pas juger, sous la forme d'une illustration agadique. Une illustration agadique concernant le roi Yanaï, Alexandre Janet, roi asmonéen, grand et grand prêtre du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Là, je cite. Donc son esclave à Alexandre, à Yanaï, était appelé au Bedin avec son maître, car il était soupçonné de meurtre. Mais quand le roi Yanaï est arrivé au Bedin, les juges n'étaient même pas capables de soutenir son regard. L'Agmara dit, ils ont tourné la face vers le sol, n'étaient pas capables de rendre la justice. Ils étaient écrasés par la présence du roi. Il faut savoir que le roi Yanaï est connu pour avoir étendu le royaume de Juda, pour avoir dirigé aussi le pays d'une poigne de fer, et en étant particulièrement dur avec le mouvement des pharisiens. Donc dans cet épisode agadique, le roi est dépeint comme celui qui détient le dernier mot. Et là, on retrouve chez Bossuet, chez Dante, le tiers absolument autre, le juge qui juge en dernière instance. Mais contrairement à Dante et Bossuet, le roi n'apparaît pas comme ce tiers qui vient trancher les débats, mais celui qui détient un pouvoir absolu qui peut terroriser les juges et faire obstruction à la justice. Donc on se retrouve avec deux pouvoirs, le pouvoir du roi qui est illimité en apparence, parce qu'il est en fait limité par le Beddin, donc les tribunaux, et le pouvoir du Beddin qui est limité par la puissance, la violence de celui qui détient le pouvoir du roi. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la doctrine des deux glaives, où on a un vicaire de Dieu qui peut tout aussi bien lier que délier les lois de l'Empire. Mais en fait, on va voir que c'est différent de la doctrine des deux glaives, ça n'a rien à voir. Pour approfondir ce sujet, on va faire un tour chez un commentateur médiéval qui s'appelle Rabbeinu Nissim de Gironde, l'Oran. C'est un commentaire très connu pour ceux qui étudient le Talmud, et il a fait des commentaires halakhiques assez connus. Et il a écrit un livre qui s'appelle Drashot Aran, c'est une compilation de dissertations. Et dans la 11e Drasha, il va justement élaborer une thèse qui est très intéressante, qui est très innovante, sur la distinction entre le pouvoir du roi et le pouvoir du Beddin, la justice du roi et la justice du Beddin. Et on va voir tout de suite que pour le Ran, le pouvoir du roi se réfère à la fonction de justice entendue comme action de pacification sociale. Donc il y a deux figures qui s'opposent. La figure du roi, qui est une puissance de pacification, à l'instar de la Pax Romana, qui ne connaît pas de contraintes. Et il y a le Beddin, le Beddin, source du droit et de la justice, mais dénué de véritables pouvoirs coercitifs, et donc dénué de puissance. Et donc, contrairement à la figure du roi gardien, qui partage le titre de Meller avec Dieu, au regard de la puissance déployée dans la guerre, ici, la figure du roi détenteur de la puissance absolue, pouvant faire obstruction à la justice, s'oppose à titre de Meller HaMishpat, qui est l'attribut qu'on donne à Dieu, donc Dieu de justice. Alors pour essayer de résoudre cette contradiction, le Ran explore en détail cette dualité de la puissance et de la justice. Il s'appuie sur les Pirkei Avot, donc Pirkei Avot 3.2, et la République de Platon aussi, en disant que chaque nation a besoin d'un juge pour maintenir l'ordre public, sinon le monde s'entre-dévore. Et si Israël doit avoir des juges et des lois pour assurer sa conservation comme n'importe quel autre peuple, ils doivent en plus avoir une constitution autre, ils doivent avoir d'autres lois pour une autre raison, et la raison qu'il donne, lui, c'est l'application de la Torah. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de justice pour le Ran. Il y a une justice qui permet la conservation des sociétés et qui est nécessaire pour toute l'humanité, et la société juive a besoin en plus d'autres lois, les lois de la Torah, mais qui ne servent pas directement à sa conservation. Donc le roi apparaît comme un juge, selon le Ran, mais qui toutefois ne juge pas selon la Torah avec des lois religieuses, mais selon sa volonté et son sens intime de la justice, sa compréhension de la justice, afin de garantir la protection du peuple. On retrouve ici le motif du roi comme chômeur Israël, mais sauf qu'ici, pour éviter les conflits intérieurs. Dans ce contexte, donc selon l'oral, la faute du peuple qui demande un roi n'a pas été de demander un gouvernant, un protecteur, mais de demander un juge. Car il faut distinguer selon lui deux types de justice. La justice dit mishpat, donc la justice au sens simple de régulation sociale, et un autre type de justice qu'il appelle mishpat tzedek, qui est difficile à traduire parce que ça voudrait dire la justice droite, et qui va... Le roi va expliquer par la suite ce que ça veut dire mishpat tzedek, mais donc il distingue deux types de justice. La justice qui permet de pacifier la société et la justice mishpat tzedek. Et cette justice est nécessaire, mishpat tzedek, même si elle ne conduit pas à l'ordre public et à la paix sociale. Car en effet, selon l'Oran, seul le roi qui peut exercer un monopole de la violence peut maintenir l'ordre public. Son institution est d'une certaine manière un mal nécessaire pour la société. Mais la régulation sociale par le monopole de la violence n'est pas non plus synonyme de la justice droite, Mishpat Tzedek, car la justice droite, selon lui, fait résider la présence divine, la Shrina, en Israël. On voit, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la justice du roi qui est de préserver la cohérence de la société, et l'enjeu de la justice Mishpat Tzedek assurée par le Bet Din qui est de faire résider la présence divine en Israël. Dans ce contexte, et pour le Ran, il apparaît nécessaire de nommer des juges pour garantir la paix intérieure. Le roi semble mieux placé pour exercer cette fonction, donc la fonction de tir absolu qu'on retrouve chez Dante un peu plus haut. Toutefois, les prérogatives de celui-ci ne peuvent s'étendre au-delà de l'impératif de conservation du peuple. C'est-à-dire qu'il peut avoir un pouvoir absolu pour garantir la paix sociale, mais dès qu'il va empiéter sur le pouvoir du Bet Din et sur les lois de la Halakha, à ce moment-là, il ne peut plus juger. Voilà. Donc même selon l'Oran continue en disant « Le roi peut ajouter ou retrancher au commandement seulement pour les besoins du moment, et non par conviction religieuse. » Donc il n'y a pas, contrairement à la doctrine notamment des deux corps du roi, on n'a pas en une même personne la justice céleste et la justice du monarque. Car s'il investit le Bet Din démissionnera. Donc il y a une incompatibilité entre le monarque et le juge qui assure le Mishpat Tzedek. Une différence de nature entre le roi et le Bet Din, un gouvernement relevant de la tribu de la puissance et un tribunal qui relève de la tribu de justice. Alors, il y a une remarque là, que je me pose, c'est le Ran, dans cette démonstration, il ne prouve pas son argumentation depuis la Gemara que vous avez citée, depuis la Mishnah Sanhedrin 19a. Donc, il faudra ensuite creuser pour bien comprendre les sources talmudiques de son raisonnement. Ce qu'il apparaît, c'est que la figure du roi et le concept de souveraineté dans la loi orale ressemblent beaucoup en fait au Léviathan de Hobbes, où le peuple choisit d'élire un dieu mortel pour le protéger en tant que société. Si on cite Hobbes, la multitude réunie en une seule personne s'appelle une communauté, en latin civitas. C'est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt pour parler plus respectueusement, de ce dieu mortel auquel nous devons, sous le dieu immortel, notre paix et notre défense. Donc, concernant le verset ambigu dans le Deutéronome relatif à la nomination du roi, à savoir si nommer un roi, ça relève d'un commandement positif ou au contraire, c'est une concession qui est faite par Dieu à son peuple, le Ran explique que l'établissement d'un roi est nécessaire, mais d'autant plus nécessaire que les lois de la Torah ne suffisent pas à maintenir la paix et l'ordre au sein d'une société. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que, selon le Ran, la justice de la Torah, la loi de la Torah, n'est pas suffisante, ne permet pas de maintenir une société en ordre, ne permet pas de faire tenir une société, en fait. Ce n'est pas suffisant. Il donne un exemple, c'est les dispositions légales donc, particulières, qui sont particulièrement restrictives en matière de peine de mort. De la sorte, il est impossible pour le tribunal rabbinique de mettre une personne à mort. Il explique qu'il faut deux témoins pour attester d'un crime, mais que le Bet Din, en fait, va prendre un des témoins, va pousser l'enquête assez loin pour trouver des points de divergence entre les deux témoignages. Donc, ce qui fait que dans ces conditions, aucun tribunal rabbinique ne peut mettre à mort, ne serait-ce qu'un seul meurtrier, alors qu'un roi peut mettre à mort n'importe qui et sans justification si c'est nécessaire pour la préservation de la société. Donc, ce qui apparaît, c'est que il semble que chez le RAN, la justice droite, Mishpat Tzedek, de la Torah, il semble que ce soit pas un jugement coercitif, mais que ce soit autre chose. Alors, il propose, le RAN, de dire que c'est un enseignement qui est donné par le tribunal, puisqu'il cite un verset, Deutéronome 17:11, « Tu agiras conformément aux instructions qu'on te donnera, tu ne t'écarteras pas du verdict qu'on t'annoncera, ni à droite, ni à gauche. » Donc, il semble que le jugement des juges de Torah soit un enseignement, soit pas coercitif, alors que la justice du roi émane d'un pouvoir absolu pour la préservation de la société. Alors, sur... Il y a une question aussi qui se pose, savoir, on dit donc dans un paracha sur les juges, Shoftim veshotrim titenera, et beaucoup de commentateurs disent que les shotrim, qu'on peut traduire par les policiers, sont vraiment des policiers qui sont là pour s'assurer que le peuple respecte les mitzvot. Mais selon le RAN, on ne peut pas dire ça. Semble pas que le Beit Din dispose d'une police spécialisée, ce serait plutôt des agents administratifs. Enfin, il faudrait aller plus loin pour creuser ce point et le démontrer vraiment, mais il semble que les shotrim ne soient pas des policiers, que le Beit Din, en fait, n'ait aucune force armée. Cet idéal de justice, Mishpat Tzedek, est recherché par le peuple, alors à ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de policiers, la société fonctionne avec le roi et les juges, qui jugent ceux qui veulent bien se faire juger par les juges de Torah. Mais par contre, dans le cas où cet idéal de justice n'est pas recherché par la société, alors les juges de la Torah quittent le Beit Din, quittent le temple, comme le rapporte le Talmud Avodah Zarah à 8b. Lorsque les juges virent le nombre de meurtriers augmenter, se dirent « nous partirons en exil ». Donc le Beit Din, le tribunal rabbinique, devient, dans le Talmud, un autre personnage conceptuel qui est opposé au roi et qui est incarné par les juges de Torah, et qui devient une métaphore de la présence divine. Voilà, chaque juge fait vraiment résider la Shrina en Israël. Ça, c'est marqué dans Sanhedrin, etc. Voilà. À la lumière de cet enseignement, on comprend mieux la proposition de la Mishnah qui dit « le roi ne juge pas ». Parce que même s'il jugeait, son jugement ne serait pas un jugement droit, Mishpat Tzedek, mais un jugement destiné à réguler la société et maintenir l'ordre public. Donc en fait, la lecture du RAN est très moderne, parce qu'aucun roi ne peut se prévaloir de la loi divine comme source de son pouvoir et punir les crimes et châtier les transgresseurs. En d'autres termes, aucun roi ne peut rendre possible une inquisition religieuse dans la société juive, parce qu'il n'a pas les moyens de s'emparer de la loi religieuse pour assurer son autorité. Et là, le Talmud, en fait, va décrire deux autres personnages très différents, deux polarités de ce que le roi peut devenir. Il y a le roi d'Israël, qui renvoie au concept d'une souveraineté en tant que pouvoir absolu, et le roi David, qui renvoie au concept de souveraineté, mais au sens du fait, la possibilité de s'imposer des limites à soi-même. Là, je cite la Gemara dans Sanhedrin 19a. Rabbi Yosef déclare « Le roi ne juge pas. Les sages n'ont enseigné cette loi que pour le roi d'Israël. Mais s'il s'agit d'un roi de la lignée de David, alors oui, le roi peut juger autrui. » Donc en utilisant l'expression « roi d'Israël », « Melech Israël », Israël, c'est le nom commun du peuple juif, le Talmud crée un autre personnage conceptuel, un roi qui n'est pas issu de la lignée de David, un homme ordinaire, qui, parce qu'il n'observe pas et n'incarne pas l'enseignement de la Torah, et surtout parce qu'il entrave le travail des juges rabbiniques, est considéré par les sages comme indigne de confiance. On aurait donc, dans l'exercice de la souveraineté, deux polarités. Là, je m'appuie sur Mendelssohn. Une politique terrestre, comme dit Mendelssohn, dans la deuxième partie de Jérusalem, incarnée par la figure conceptuelle du roi d'Israël. C'est-à-dire que c'est un tyran nécessaire qui régule l'ordre public et qui est soutenu par un peuple qui est victime de sa propre servitude volontaire. Et à l'inverse, une politique céleste incarnée par la figure du roi David qui saurait réguler l'ordre public sans exercer de tyrannie et en laissant libre cours à l'action des juges de la Torah. Et là, moi, je m'appuie aussi sur un midrash, le midrash Tatrouma, qui explique « Keter Malchut, la couronne de la Torah, appartient, la couronne de la royauté appartient à David et à sa lignée. David l'a prise et l'a gardée parce qu'il s'est soumis aux lois de la Torah. Cependant, tout roi d'Israël qu'il souhaite peut exercer un pouvoir illimité sur les autres, y compris sur le tribunal rabbinique, et qui, dans ce cas, ne peut que s'exiler, métaphore de l'exil de la présence divine lorsque le temple est détruit par la violence politique. Dans ce contexte, on comprend que le roi d'Israël ne peut rendre la justice et siéger au tribunal rabbinique, car le monopole de la violence ne peut pas être confondu avec un enseignement, l'enseignement des vérités éternelles, comme dit le Ran. Donc sans jamais avoir défini le concept de roi et de souveraineté, la loi orale et ses commentateurs, donc ici le Ran, parviennent à établir une double doctrine de la souveraineté. On pourrait dire, en premier lieu, que si le roi possède la couronne de la royauté, c'est-à-dire que s'il agit avec un pouvoir illimité en ayant le monopole de la violence, et s'il maintient l'ordre social, alors il remplit ses devoirs de roi, selon le Ran. Cependant, s'il tente de monopoliser la couronne de la Torah auprès des juges, c'est-à-dire s'il veut aller au-delà de la mission de maintien de l'ordre, et tente par exemple d'utiliser la religion comme un moyen de maintenir l'ordre social, ou s'il veut annuler le pouvoir des juges, alors ce personnage est appelé par le Talmud un roi d'Israël, c'est-à-dire un roi mauvais. Et c'est pour ce personnage spécifique que la Mishnah dit « il ne juge pas, il ne peut pas juger ». Ce qui signifie que s'il siège au tribunal rabbinique, les juges doivent quitter leur poste et partir en exil. Donc ça c'est la première configuration. Deuxième configuration, si le roi possède un pouvoir illimité, non, s'il possède la couronne de la Torah, mais qu'il accepte la justice droite, et s'impose des limites, alors il ne voudra pas voler la couronne de la Torah au juge, et paradoxalement, il sera autorisé à siéger au tribunal rabbinique, car ce faisant, il cède la souveraineté ultime à Dieu. Donc ce personnage conceptuel est appelé roi de David, Meller David, et semble être l'idéal du Talmud en matière de souveraineté. Maintenant, on peut se poser la question si cette figure du roi David est une hypothèse ou une pure fiction. Que la fiction peut reposer sur un énoncé ou un fait manifestement démenti dans la réalité, alors que l'hypothèse repose la présomption repose sur une hypothèse qui est soutenue aussi longtemps qu'elle n'est pas invalidée par la réalité. J'emprunte cette distinction méthodologique de persévérance fait juif. On peut se poser cette question. Est-ce que la puissance de réalisation empirique du roi David ici la puissance de réalisation empirique du roi David est en jeu et consiste en l'attestation pratique de sa réalisation, le roi d'Israël et le roi étranger se retrouvent un peu tous les deux car ils dominent le peuple et partagent le règne de Dieu, mais finalement empiètent sur le gouvernement civil de son peuple par la législation dont il l'a gratifié. Ça veut dire que c'est une hypothèse que je pose, j'ai une question que je pose, à savoir est-ce que ce qu'on appelle roi David, Malchut Bet David, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que véritablement les Chazal, les sages de la Torah, ont envisagé un jour que le gouvernement idéal soit ce qu'on appelle Malchut Bet David? Voilà. Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est une hypothèse ?